Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mutien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est
l'oreille dans le coin.
Le week-end du 1er et 2 juin s'est déroulé à Marny-les-Compiègne dans l'Oise, la 6e édition de la Marny Geek Convention, événement organisé par l'association compiénoise The Ultimate Sci-Fi. J'ai rencontré sur place deux romancières isariennes, le vice-président de l'association Stargate SG4F, ainsi que Medinelli aka Mezio, auteur et dessinateur de manga. Il nous présente sa discipline.
Bonjour, je m'appelle Mehdi, je suis dessinateur de manga, tout à fait. J'ai créé un manga indépendant qui s'appelle The Sacred Mountain et un livre pour apprendre à dessiner Objectif Mangaka. Je suis auteur, dessinateur, je fais les scénarios et je donne aussi des ateliers de dessin où je présente la discipline et le métier de mangaka.
Ces cours, vous les donnez en Bretagne, à Vannes ?
Tout à fait, à Vannes, mais maintenant dans toute la France. J'ai récemment déménagé à Toulouse, du coup je vais essayer de travailler un peu plus dans le sud de la France, mais ça m'arrive de donner des cours vraiment partout en France.
Alors vous êtes allé directement à la source, comme on dit, puisque vous avez fait de nombreux voyages au Japon. Au départ, c'était pour rester quelques jours et finalement, vous êtes resté plusieurs mois.
C'est ça, je suis allé 3 fois au Japon, une fois 6 mois, une fois 1 an, une fois 1 mois. Et je voulais comprendre le cœur du manga, le cœur des Japonais et essayer de comprendre un petit peu la facette cachée derrière le manga et quoi de mieux qu'apprendre la langue et aussi aller sur place pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est la psychologie manga dans la tête des Japonais. Et je suis allé chercher ça au quotidien, en feuilletant des livres, en parlant avec les gens, en allant à des conventions comme à Compiègne, ici, pour essayer de comprendre d'où vient le manga, quoi.
Et c'est très difficile, mangaka, au Japon. Il y a beaucoup de concurrence. La pression, elle est assez lourde sur eux.
Ouais, c'est un métier très particulier. Un auteur de manga au Japon doit produire 17 planches par semaine. 17 planches par semaine, il ne compte pas ses heures de travail. C'est très fatigant, hein. C'est très connu qu'un dessinateur de manga travaille dur. Mais la récompense est tout aussi bonne parce que la diffusion qu'offre le Japon en termes de manga à l'auteur qui a ce sésame d'être publié là-bas est quand même assez incroyable. Je dirais que le jeu en vaut totalement la chandelle. Ok, on sacrifie peut-être quelques années de travail, mais on a plus de chances d'avoir un animé. On a plus de chances d'avoir des goodies, des figurines et une distribution extrêmement forte. Et en France, on est encore un petit peu timide sur ce point-là parce que c'est des risques financiers très forts pour l'éditeur. Mais au Japon, ils ont une telle abondance de mangas qu'ils peuvent se permettre de prendre ces risques-là que le marché français ne pourrait peut-être pas se permettre tout le temps.
C'est ça, parce qu'il y a une revue là-bas qui est publiée toutes les semaines. Et si ça ne fonctionne pas, bah, ils prennent un autre mangaka et ils se retrouvent au chômage en fait.
C'est ça, plus qu'une revue même. Hein. Il existe plus de 50 magazines de ce thème-là. Hein. On appelle ça des magazines de prépublication. Et le principe, c'est le Netflix version papier du manga. Chaque semaine, un nouveau chapitre de votre manga préféré ou chaque mois, votre chapitre préféré sort dans le magazine. On l'achète pour très peu cher, hein, pour 2,50€. Ça dépend du magazine. En moyenne, c'est ça. Le lecteur a pour devoir de voter pour son chapitre préféré dans la semaine. La semaine suivante, apparaît un classement. Si vous êtes en haut du classement, tant mieux pour vous. Vous êtes à la fois riche, célèbre et apprécié. Et si vous êtes en bas du classement, comme vous le disiez, vous êtes susceptible d'être viré de l'entreprise. Et ça, c'est la loi du manga au Japon. C'est très concurrentiel, mais encore une fois, pour cette carotte qui se donne envie, quoi.
Parlez-nous de votre ouvrage dont vous avez évoqué en début d'interview, qui s'appelle « Objectif Mangaka ». L'adage, c'est vraiment d'apprendre à dessiner les personnages du manga, mais pas que.
Non, mais pas que. J'ai abordé dans ce livre « Objectif Mangaka » toutes les frustrations qu'on a quand on apprend à dessiner. J'ai appris le dessin très tardivement, vers 18 ans. Du coup, je me souviens de toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Et dans ce livre, j'ai mis autant d'humour que de petits points mindset, que d'exercices et d'exemples, parce que je voulais accompagner le lecteur tout le long de son apprentissage et pas qu'il se sente à un seul moment sur une page « Attends ». Là, on a monté d'un niveau et je ne sais plus comment faire. Les cours que j'ai donnés m'ont donné l'expérience et j'ai pu voir sur les élèves même quelles frustrations ils rencontrent à quel moment. J'ai mélangé ça avec les miennes et j'ai fait Objectif Mangaka au plus proche, comme un journal intime, un vrai outil de pédagogique pour le dessin, quoi.
Il y a des exercices à faire à l'intérieur.
Exactement. Le principe, c'est qu'il y a 12 chapitres, 4 exercices par chapitre, dont un exercice défi. Et si on réussit l'exercice défi, ça veut dire qu'on a le niveau pour passer au chapitre suivant. Ça permet de s'auto-évaluer et en même temps de se challenger. Et c'est vachement important de mettre des niveaux assez hauts en dessin parce qu'on se surpasse, des timers ou des dessins encore plus difficiles. Et on sent sa progression au fur et à mesure des chapitres, c'est trop cool.
C'est un régal d'être à la Geek Convention ce week-end.
Franchement, je passe une très bonne journée. C'est un régal, les gens sont gentils. Je leur fais des dessins, ils repartent avec un sourire jusqu'aux oreilles. Nous, on a un métier très particulier. Hein. Moi, je dis qu'on offre des sourires. Hein. On ne peut pas réparer la santé ou des choses comme ça, ou une voiture. Mais par contre, un dessin, ça fait toujours sourire. Et un sourire, comme on dit beaucoup, c'est 5 autres par ricochet.
Pour retrouver Mehdi sur les réseaux,
on tape Mezio. Mezi-O. On peut me trouver sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube maintenant. Et j'ai également une chaîne Twitch où je donne des lives tous les mercredis. Et je joue et je m'amuse avec les abonnés et je dessine en même temps avec eux.
Rencontrer à la Geek Convention Brigitte Beaumont, une romancière basée à Marny-les-Compiègne.
Alors, le travail d'autrice, enfin de romancière, ben c'est un livre par an. Ça se passe la plupart du temps très très bien. Et la maison d'édition est basée dans le milieu de la France, hein, au centre de la France. Et nous sommes plusieurs auteurs ici, 3 auteurs aujourd'hui. Et l'auteur ici écrit du fantastique et la maison d'édition, c'est pratiquement que du fantastique.
Vous définirez comment le fantastique en littérature ?
Un monsieur a dit un jour à une auteure fantastique, lui a dit « Je ne lis que de la vraie littérature ». Sous-entendu, le fantastique, ça ne fait pas partie vraiment de la bonne littérature. c'est parce que c'est trop moderne. Ces gens-là lisent du classique, du grand classique, de l'ancien classique, même des anciennes écritures. Hein.
Vous avez écrit un roman qui s'appelle Dicky, le loup solitaire. Vous pouvez nous faire le pitch ?
Alors, Dicky, c'est un loup abandonné par la meute. Quand ils n'ont plus assez à manger, il se débarrasse des faibles et des petits. Donc lui, il fait partie de ceux qui ont été abandonnés. Donc il a été récupéré par un couple qui l'élève comme un chien, sauf que ce n'est pas un chien, c'est un loup, donc il va partir. Mais c'est une histoire qui finit bien, malgré tout.
Dans la thématique du fantastique aussi ?
Alors, c'est pas du fantastique, mais il paraît que si on ne met pas de nom, de région, de pays ou tout ça, ça rentre dans la fantaisie.
Est-ce qu'il y a un autre roman que vous avez publié dont vous voulez parler ?
Alors, le dernier que j'ai publié, c'est « Derrière la brume ». C'est une remise en cause de la fin de Louis II de Bavière. Je fais des références à Compiègne parce qu'il a reçu Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Donc, quelque part, ça me rapproche de chez moi. Et j'ai aussi mis le château de Pierrefonds parce que le château de Pierrefonds, il l'a visité et il a fait son Neuschwanstein avec l'idée du château de Pierrefonds.
Il est comment le public à la Geek Convention ?
Il est très chaleureux, très ouvert et très intéressé.
Maddy Fanchin, auteure beauvaisienne, était présente également à la Geek Convention. Elle nous présente ses ouvrages.
Donc, j'ai écrit une trilogie, une romance fantastique qui se passe en Alsace. C'est l'histoire d'une jeune fille en fait qui a perdu ses parents, qui va déménager à la Baroche et qui en fait va se rendre compte que les vampires existent. Un vampire qui est né particulier, qui va rêver d'elle et en fait ça va être leur histoire pour pouvoir être ensemble malgré qu'ils ont deux natures opposées. Donc normalement ils ne peuvent pas s'aimer.
Une trilogie, pourquoi ?
Parce qu'un seul roman, c'est trop court. Il y avait trop de choses que je voulais leur faire vivre, leur faire les épreuves, les sacrifices, tout ça. C'était forcément une trilogie.
Quels sont les ingrédients pour écrire un bon roman fantastique ?
Je pense que dans le fantastique, ce qui plaît, c'est le fait que ça se passe dans le monde réel. Donc, je pense qu'il faut vraiment réussir à faire la liaison entre vraiment cette créature-là, comment ça serait plausible qu'elle soit dans le monde réel et comment elle pourrait interagir avec les humains. Et aussi, je pense que ce qui plaît aussi beaucoup, c'est quand il y a de la romance, le fait qu'il y ait de la romance, qu'il y ait des émotions.
Quels auteurs vous inspirent ?
Beaucoup. Ça va de Shakespeare, Victor Hugo. J'aime aussi beaucoup Maria V. Snyder qui a écrit des très belles épopées fantasy.
Un mot sur votre maison d'édition, Rebelle Édition.
Rebelle Édition, c'est une très bonne édition, surtout qui propose de très bons ouvrages, des ouvrages originaux sur beaucoup de fantastique et de fantasy.
Stéphane Jourdain, vice-président de l'association Stargate SG4F.
Donc officiellement, l'association a été créée en 2018, mais avant ça, c'était un fan club costumé et donc qui a été créé en 2004 sur la franchise Stargate.
Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez présenter cette série ?
La série Stargate, en fait, est basée d'abord sur le film qui est sorti en France en 95. Donc, c'est l'histoire, justement, d'une découverte d'un artefact en Égypte qui permet, justement, de pouvoir voyager d'une planète à une autre dans la galaxie.
Et ensuite, a dérivé une série, c'est ça ?
Ensuite, voilà. Ensuite, une série a été créée en 98, qui a duré 10 ans. Voilà, donc c'est une équipe principale composée de 4 membres. Donc l'équipe SG1, qui explore des différentes planètes, qui combattent des extraterrestres qu'on nomme des Goa'uld, qui se prennent pour des dieux divins.
Pourquoi avoir créé Stargate SG4F ?
De base, c'était en fait pour pouvoir se mettre dans la peau d'un membre de l'équipe de Stargate. Soit un soldat, soit ça peut être aussi un général, ça peut être ou même un extraterrestre aussi. Hein. Puis donc faire revivre la franchise à travers les conventions, justement on rencontre des passionnés, puis rencontrer aussi par la même occasion des acteurs aussi qui ont joué dans la franchise.
Américain comme Richard Dean Anderson.
Exactement, oui, comme Richard Dean Anderson qui a aussi joué MacGyver. Hein, ceux qui ont connu dans les années 80, voilà, cette fameuse série télévisée, qui joue le rôle de Jack O'Neill, qui reprend le personnage de Jack O'Neill du film. Et donc nous, à SG4F, on a eu la chance d'avoir pu le rencontrer l'année dernière à Marseille, lors d'une très grosse convention.
Vous êtes basé où ?
Alors, le siège est à Lyon, mais les membres sont un peu partout en France, côté de la Manche, dans le Nord. Moi, je suis de la région parisienne, on a des membres dans le Sud, d'autres à Lyon.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter, Stéphane, ce que vous avez rapidement, ce que vous avez exposé à la convention ?
Ce que nous exposons à la convention, c'est par exemple donc, une assiette. Une reproduction de l'assiette où on voit dans un épisode où Jack O'Neill, si je puis dire le mot, pète un câble parce que ben, en fait ces journées se répètent systématiquement et d'où le titre de l'épisode l'histoire sans fin. Et donc au bout d'un moment il pète un câble, donc il est à la cantine, il prend un ketchup, moutarde et puis il dessine un personnage sur son assiette. Après hop, la journée recommence et puis il recommence en boucle.
On trouve également un fragment de Porte des Étoiles, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une association qui s'appelle les Enfants MacGyver qui reproduisent en ce moment la Porte des Étoiles à l'échelle 1, donc, qui fait 6 mètres de diamètre. Par moment, quand il y a des petits loupages au niveau de la résine, tout ça et tout, bah, ils stockent les petites pièces qui ont été cassées. On les récupère et puis on les expose et puis on explique aux gens que c'est des fragments de la Porte des Étoiles.
De la Voie lactée.
Exactement.
C'était Yann Barré pour Radio Valois-Mulsien. Le week-end du 1er et 2 juin s'est déroulée la 6e édition de la Marnie Geek Convention, événement organisé par l'association compiénoise The Ultimate Sci-Fi.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur, à très vite sur l'antenne d'RVM.